Nous sommes dans une centrale nucléaire. À 19h45, on constate une baisse rapide de la pression de l'eau qui baigne le cœur du réacteur, un réacteur qui doit être refroidi. À 1h, les alarmes incendie se déclenchent. À 3h20, un geyser de 20 mètres de haut jaillit d'une brèche qui libère l'eau radioactive à raison de plus de 42 mètres cubes par heure. À 5h45, au petit matin, la fuite est localisée. Elle est réparée d'urgence par une escouade d'agents qui vont être exposés à des contaminations importantes. Au total, c'est 10% de l'eau stockée dans le bâtiment réacteur qui s'est échappée.
Toujours ce qui est interdit.
Plus ça.
Merci.
Je vous en prie.
Laissez-toi en plus.
Le scénario dont je vous parlais n'est pas fictif. Il s'est réellement passé. Nous étions le 12 mai 1998 à Civaux, à un moment où la centrale n'avait été couplée au réseau que 5 mois plus tôt, en décembre 1997, et alors elle ne fonctionne qu'à 50% de sa puissance. Heureusement, apparemment. Pendant plusieurs heures, les responsables de Civaux ont vécu sous la menace de la contamination totale de leur bâtiment réacteur par un nuage de vapeur contaminée. Pourtant, au dire des officiels et au dire de la direction de la centrale, tout va pour le mieux. Le directeur délégué au parc nucléaire d'EDF, Yves Cor, déclare « Il n'y a eu aucun problème de sûreté, à aucun moment. Mais ce n'est pas un accident bénin ni banal », explique-t-il quand même. Les 230 mètres cubes d'eau radioactive échappée ont été, heureusement, dit-il, entièrement récupérés dans le puisard du réacteur. Puisard du réacteur, personne ne sait ce que c'est des mots qu'on vous balance comme ça pour vous sécuriser, mais enfin, on ne sait pas, c'est un peu magique. Le responsable, il est désigné, c'est un coude fabriqué par Framatome. Mais il y a eu à l'époque un autre son de cloche, c'est le physicien Raymond Séné, qui fait partie du Conseil supérieur de la sûreté et d'informations nucléaires, qui dit « c'est un incident technique grave. Il révèle un défaut de fabrication sur une pièce de métallurgie stratégique et une défaillance des contrôles de qualité. » À l'époque, donc il y a à peine plus de 20 ans, nous sommes en ce moment dans c'est un triste anniversaire de la centrale de Civaux, hein, un peu plus de 20 ans. 20 ans pour le couplage au réseau et 20 ans et quelques mois pour le premier incident grave. Des défaites, il y en a eu sur la construction de même, par le fait qu'il n'y a pas eu de mouvement antinucléaire vraiment très très fort, très très dur, très très massif. Il y a eu des comités antinucléaires, il y a eu des oppositions à la centrale, mais dans l'ensemble, les grandes luttes antinucléaires en France, c'est-à-dire des années 70 et de tout début des années 80, à Plogoff, Chaux, Malville, Le Carnet au Golfech, c'était passé, on était dans une autre période. Pourtant, bien que Civaux soit arrivé trop tard, le mouvement antinucléaire avait déjà été défait, mais une autre lutte massive a illustré la lutte antinucléaire, finalement, dans le sud de Vienne, à la fin du siècle dernier, celle contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à La Chapelle-Baton.
Voilà. Du coup, moi, je vais vous parler du site de La Chapelle-Baton. Alors, le nucléaire, ça pose le problème des déchets millénaires qu'il produit, et sans s'étendre sur les solutions, l'absence de solutions, la partie technique, les magouilles et les conflits d'intérêts, faire oublier les déchets 1 km sous terre, c'est aussi trouver un prétexte pour faire perdurer des centrales et une industrie dangereuse. Donc, avant de réussir son implantation à Bure, puisque là, en fait, pour La Chapelle-Baton, on parle d'un site similaire à celui qui est maintenant en construction à Bure, l'ANDRA, du coup l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, a testé plusieurs sites en plusieurs vagues, les deux dernières vagues étant les plus sérieuses puisque des forages y sont systématiquement pratiqués et l'implantation de l'ANDRA en tant que laboratoire sur place est testée. On peut noter que dès 1984, la Vienne est envisagée avec un potentiel site près de Montmorillon, mais ça c'est un projet qui ne sera pas très sérieux. Dans la première vague, du coup, de 87 à 90, il y a 4 sites qui sont testés en fonction de la nature des sols et aussi de la relative absence de population dans les secteurs, dont celui de Neuvy-Bouin, qui se situe dans les Deux-Sèvres, à côté, et aussi celui de Segré, dans le Maine-et-Loire, qui est près d'Angers. On note aussi un site dans l'Ain, un autre dans l'Aisne. Mais ces projets vont être abandonnés suite aux fortes oppositions des habitants. Pour celui de Segré, on note en janvier 90 une manifestation qui réunit plus de 10 000 personnes dans les rues d'Angers. Et dans tous ces lieux, qui sont du coup dans des milieux ruraux, des manifestations assez massives, avec notamment pour illustrer l'opposition des habitants, des choses comme des tracteurs blindés préparés pour aller aux manifs avec des renforcés pour... ou avec des vitres renforcées, ce genre de choses. Du coup, ces différents projets-là sont abandonnés. La deuxième vague d'implantation de l'ANDRA va recommencer en 93, où là, 3 nouveaux sites vont être différents, donc vont être sélectionnés. Bure dans la Meuse, un site dans le Gard et le site de la Chapelle-Bâton, et qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. La Chapelle-Bâton, ça se situe près de Civray et de Charroux, du coup, tout à fait dans le sud de Vienne. Donc, comme d'habitude, l'ANDRA va s'implanter dans des zones assez peu peuplées, et ce, en dépit des zones sismiques ou ce genre de choses, puisqu'on peut noter qu'il y a une certaine faille... je ne suis pas géologue, mais bon, il y a un truc... Il y a une faille dans la Vienne, notamment, mais je crois qu'il y a à peu près le même type d'implantation qui se situe comme ça à Bure. Donc, dans ces zones, on va mettre en place des stratégies similaires à tous ces sites afin de faire passer la pilule, avec notamment un slogan un peu sous-jacent de chercher un terrain dur, notamment un terrain granitique ou avec ce genre de sous-sol, et une population molle. Un des principes pour mieux faire accepter le projet à la population, ça va être d'arroser et de subvention toute la région. Du coup, autour de la Chapelle-Bâton, on va noter qu'il y a des entreprises de la région comme Duvivier, le Vieux Cormenier et en fait à peu près toutes les boîtes qui se situent dans le coin qui vont toucher de grosses, grosses primes. On peut aussi noter que les mairies alentour, par exemple le bourg de Saint-Romain-en-Charroux, qui est un village qui est vraiment minuscule, qui a été fait entièrement grâce aux subventions de l'ANDRA. Et à ce propos, du coup, je vous cite le commentaire de quelqu'un qui était adolescent dans les années 90 et qui racontait qu'ils allaient systématiquement faire du foot le samedi soir au stade de Saint-Romain-en-Charroux parce qu'ils ne payaient pas l'électricité. Et on sait ce que ça représente d'éclairer un terrain de foot tous les samedis soirs. Et qu'en plus de ça, ils avaient des vestiaires de Ligue 1. Voilà, du coup... oui, le Saint-Romain était plutôt bien équipé. Voilà. Alors, on va aussi noter en stratégie assez similaire l'installation dans le village d'un permiteur. C'est un personnage assez particulier qu'on va retrouver dans ces différents endroits. Et c'est un employé de l'ANDRA qui va aider à faire bien voir le projet à la population. Notamment, c'est lui qu'on va voir quand on a envie quand on a besoin de refaire faire quelque chose. C'est lui qui vient voir les gens, les agriculteurs chez qui ça serait intéressant de mettre un forage en leur proposant en échange d'empirer leur chemin, de refaire leur grange, des choses comme ça. Il fait aussi tout le travail de représentation de l'ANDRA en envoyant par exemple des cartes manuscrites aux habitants. Donc dans tous ces endroits, on va noter que la personne qui est embauchée est souvent un personnage atypique et charismatique qui est assez proche du milieu paysan afin de s'y mieux accepter. Par exemple, à la Chapelle-Bâton, le permiteur, ça va être un monsieur qui était un Polonais qui était venu en France avec ses parents faire les récoltes de betteraves, du coup, qui avait une certaine affinité avec le milieu paysan, très charismatique et qui est venu à ce moment-là s'installer à la Chapelle-Bâton. On peut noter qu'il habitait dans le même hameau que certains des opposants. Et il y est mort peu de temps après avoir pris sa retraite en voisin. Du coup, c'est ce genre de personnage un peu étrange que l'ANDRA installe sur place, et notamment pour la population, en fait, qui était compliquée à gérer, quoi, parce que t'as affaire à un employé de l'ANDRA, et en même temps, bah, c'est quelqu'un qui est là pour... c'est quelqu'un de sympathique, que t'aimes bien, que tu caresses tous les jours. C'est toi qui vas le découvrir mort chez lui. Enfin, c'est très étrange, quoi, comme fait de... d'installer un projet. Donc, pour cette zone aussi, on va noter que, afin de mieux faire passer la pilule, ça va être... on est dans une zone rurale, du coup, aussi très touchée par le chômage, et du coup, l'ANDRA va aussi s'implanter en promettant massivement du travail. Je peux vous raconter l'exemple d'un jeune ménage à l'époque à qui on avait réussi à promettre, alors même que le laboratoire n'était pas du tout installé, qu'ils seraient et femmes de ménage et gardiens, en disant à quel endroit précis ils allaient pouvoir travailler. Et ça, mine de rien, ça joue dans comment les gens en fait ont envie ou peuvent pousser un petit peu à ce qu'un projet se fasse, quoi. Parce que de pouvoir rester vivre chez soi et avoir du travail sur place, c'est aussi important dans ces cas-là. Voilà. Du coup, de 93 à 95, sur le site de la Chapelle Bâton, ça sera jusqu'à 15 forages qui seront réalisés. Du coup, sur un territoire qui va s'étendre de Savigné, c'est à peu près au niveau de Civray, à Annois, du coup, c'est des villages un peu plus loin. Les foreuses sont des machines qui viennent d'Allemagne et qui peuvent creuser jusqu'à 1000 mètres. Notamment, l'Andra va diffuser beaucoup de publicité dans la Nouvelle République pour inviter à visiter les carottes pour découvrir la géologie de la région, sans trop dire que c'est pour ce projet pour le nucléaire. Donc, au niveau de l'opposition, à la Chapelle Bâton, l'avancée du projet, au début, fait assez peu de vagues. Les habitants sont assez peu au courant et ne prennent pas, au début en tout cas, le temps de s'intéresser aux conséquences. On peut noter que, par contre, sur place, le milieu paysan autour de Charroux, notamment, possède un noyau dur d'anciens de paysans-travailleurs. Alors, paysans-travailleurs, c'est un syndicat qui était l'ancêtre de la Confédération paysanne et la Confédération... Et qui, historiquement, est assez proche des luttes du Larzac et ce genre de choses. Et la Confédération paysanne, du coup, est issue de la scission des membres de paysans-travailleurs. Et la Confédération paysanne représente ceux qui ont soutenu Mitterrand. Alors que les autres se sont un peu éparpillés et du coup représentent la frange qui ne croyait pas à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et qu'il voyait déjà comme le liquidateur de la gauche. Alors, du coup, ces gens-là, ce noyau-là est déjà assez engagé, il est capable de s'organiser, mais de leur propre aveu, du coup, ils vont mettre un petit peu de temps avant de se mettre en branle. Donc, ces gens-là sont sans contact avec les autres luttes antinucléaires proches, comme Neuvy-Bouin, par exemple, ou avec d'éventuels opposants à Civaux. En fait, ils restent à peu près entre eux, même si plus tard, on va voir des tentatives d'organisation vers l'extérieur, et ces gens-là, en partie, vont se rendre en délégation à Bure, par exemple. Toutefois, du coup, c'est ce noyau dur de paysans qui va plutôt commencer à organiser la lutte d'opposition au projet, quasiment sans soutien à l'extérieur. La Confédération paysanne, du coup, ne prendra pas politiquement parti contre le projet, même si certains syndiqués sont sympathisants de la lutte. Et les militants antinucléaires viennent en soutien lors des manifs, mais ne font pas non plus beaucoup plus. Après, comme d'habitude, l'opposition est aussi beaucoup composée de gens qui ne veulent juste pas que ça se fasse chez eux, mais qui n'ont pas d'opposition théorique contre le nucléaire, ce qui fait qu'il n'y aura pas de discours à proprement parler antinucléaire. Et tu peux diffuser...
Oui, tout à fait. Alors, comme c'est une émission axée sur le nucléaire et notamment dans son aspect sur les luttes antinucléaires, on va diffuser une chanson de circonstances. Mais je voulais simplement revenir sur un petit point. Katrina, quand tu disais en fait que l'Andra a cherché des leviers économiques en promettant du travail, des choses comme ça pour faire accepter le projet, on est toujours dans cette démarche-là, puisque pas plus tard que cette semaine dans la Nouvelle République, un des directeurs de communication de la centrale de Civaux a dit en fait qu'ils avaient augmenté leur budget de 3 millions, donc maintenant c'est un budget à 10 millions d'euros qui se destine en fait aux petites entreprises locales pour pouvoir venir faire des réparations, ce genre de choses. Donc il y a toujours en fait une politique financière pour faire accepter ces projets-là qui sont extrêmement dangereux et critiquables, ce qui est le thème aujourd'hui de l'émission de Fracture. Mais après ce petit point, si je puis me permettre, on va donc s'écouter Enola Gay, une chanson bien connue des années 80 de l'orchestre, le groupe c'est l'Orchestral Manoeuvre in the Dark, donc on est vraiment dans une époque new wave, et donc c'est une chanson qui porte le nom du bombardier qui a bombardé, je ne sais plus si c'est Hiroshima ou Nagasaki, mais en tout cas qui a activement participé à l'entreprise nucléaire mondiale. On s'écoute ça.